VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 7 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le bilan de l'Ebola dans l'Est s'établit maintenant à 88 morts.
Le chanteur et opposant ougandais Bobi Wine vient déterminé à retourner à Kampala malgré une inculpation pour trahison.
En Algérie, l'armée s'explique sur de récents limogeages dans la haute hiérarchie militaire.
Au Maroc, arrestation de deux passeurs après une tentative avortée d'immigration clandestine.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump demande encore au New York Times de révéler l'identité de l'auteur d'une tribune peu flatteuse à son égard.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 88 morts. Deux décès ont été enregistrés pour la première fois à Butembo, au nord de Beni. Le point avec Morgane Guiriec.
Les deux premiers cas de décès confirmés à Butembo sont une femme et un personnel soignant qui a été en contact avec elle. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère de la Santé. La femme avait fui Beni, une autre zone touchée, où elle avait refusé de coopérer après être tombée malade. Peu avant son départ hier pour cette ville, Oli Ilunga Kalenga, ministre de la Santé, a donné un dernier bilan de 129 cas, 88 décès, dont 31 sont des cas probables et 57 des cas confirmés. À Beni, les autorités ont de nouveau rencontré des habitants d'un quartier qui manifestaient des résistances aux mesures de prévention. À Butembo, au grand carrefour de près d'un million d'habitants, l'inquiétude grandit. Pendant la précédente épidémie dans la province de l'Équateur, un seul cas a été enregistré à Mbandaka, autre grand carrefour d'environ un million d'habitants. La fin de l'épidémie a été décrétée le 24 juillet avec un bilan total de 33 morts.
Le chanteur et opposant ougandais Robert Kyagulanyi, connu sous le nom de Bobi Wine, a affirmé être hier déterminé à rentrer dans son pays après un traitement médical aux États-Unis, et ce malgré une inculpation pour trahison. Irénée Ongo.
Je veux rentrer chez moi, je veux continuer à appeler tous les Ougandais à se battre pour ce en quoi ils croient, a déclaré Bobi Wine lors d'une conférence de presse à Washington. Il est venu soigner des blessures provoquées selon lui par des violences et des tortures subies en détention provisoire. Les autorités ougandaises ont rejeté ces accusations. Son avocat Robert Amsterdam a saisi l'occasion pour appeler les États-Unis à dénoncer les violations des droits de l'homme en Ouganda. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, 36 ans, s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse et un critique du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Il a été inculpé avec 32 co-accusés après un incident à Arua le 14 août où des pierres ont été jetées sur le convoi de M. Museveni. Le chauffeur du chanteur et député a été tué par les forces de l'ordre et lui-même jeté en prison.
En Algérie, la grande muette sort de son silence après une récente vague de limogeage dans la haute hiérarchie militaire. Pour le mensuel El Jaish, organe officiel de l'armée, c'est l'alternance habituelle et les promus ont été choisis pour leurs compétences et leurs mérites, souligne jeudi la presse algérienne, le point avec Jean-Roger Bion.
Les dernières nominations viennent consacrer le principe de l'alternance sur la base des critères de la compétence et du mérite, assure le journal El Jaish, organe de l'armée. Selon la chaîne privée Enara, proche du pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika a limogé hier le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général-major Mohamed Amadi, et le chef des forces de défense aérienne, le général-major Bekouch Ali. Depuis le mois de juillet, le chef de l'État a mis fin aux fonctions d'une dizaine de généraux, dont le chef de l'armée de terre, de la gendarmerie, celui des renseignements, entre autres. Ces limogeages ont suscité de nombreuses questions à 8 mois de la présidentielle de 2019, marquée par l'incertitude autour de la candidature à un cinquième mandat du président Bouteflika, âgé de 81 ans et affaibli par la maladie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, dans un climat de suspicion à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a encore appelé hier soir le New York Times à révéler, je cite, le nom du lâche qui a rédigé une tribune anonyme dénonçant son comportement erratique. Au nom de la sécurité nationale, le quotidien devrait publier son nom immédiatement, a martelé le chef de l'exécutif américain, avant d'encourager les journalistes à enquêter avec détermination sur l'identité de l'auteur. De nouveau, Jean-Roger Bion.
La publication très controversée de ce témoignage anonyme, intervenu au lendemain de la diffusion d'extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, suscitait une myriade de questions à Washington et au-delà. Personne ne sait qui c'est, a lancé Donald Trump lors d'un meeting de campagne à Billings, dans le Montana, dénonçant ces anonymes qui défient les électeurs pour promouvoir leur programme secret et sont une menace pour la démocratie elle-même. Dans un étonnant ballet révélant le degré de tension régnant dans les hautes sphères du pouvoir américain, nombre de responsables de premier plan se sont fendus d'un communiqué assurant la main sur le cœur n'être en rien lié à cette affaire. Fait rare, la première dame Melania a donné de la voix, dénonçant avec force, dans une réponse écrite, l'anonymat derrière lequel l'auteur de ce témoignage s'est réfugié. Le bureau du vice-président s'est senti tenu de publier un communiqué assénant que Mike Pence était blanc comme neige dans cette affaire.
Sommet ce vendredi à Téhéran des présidents d'Iran, Hassan Rouhani, de Russie, Vladimir Poutine, et de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Ils doivent décider du sort de la province d'Idleb, ultime grand bastion djihadiste et rebelle en Syrie. La communauté internationale redoute pour sa part un désastre humanitaire imminent. Jeudi, des centaines de civils ont commencé à fuir la zone par crainte d'un assaut imminent des troupes gouvernementales. Une autre réunion sur Idleb a été convoquée par les États-Unis aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU.
L'incertitude continue de régner vendredi sur l'avenir des discussions sur la paix au Yémen. Les rebelles houthis posent des conditions pour venir à Genève, tandis que la délégation gouvernementale menace d'en partir si les rebelles n'arrivent pas rapidement. L'émissaire spécial de l'ONU, le Britannique Martin Griffith, reste cependant optimiste quant à la présence de la délégation des houthis à Genève.
En Irak, chose rare dans un secteur ultra sécurisé de Bagdad, 3 obus se sont abattus tôt ce matin sur la zone verte où siègent les autorités. Ils n'ont fait ni victimes ni dégâts et on en ignore les auteurs. Pendant ce temps, couvre-feu à Bassora, province pétrolière du Sud, après la mort d'un nouveau manifestant et l'incendie de bâtiments publics et de sièges de partis. Ce mouvement, dénonçant l'incurie de la classe politique irakienne, a débuté le 8 juillet pour réclamer eau, électricité et emploi en pénurie chronique. Il a été relancé par une crise sanitaire qui a mené plus de 30 000 personnes à l'hôpital pour des intoxications à l'eau polluée à Bassora.
Ici aux États-Unis, un pirate nord-coréen a été inculpé à Los Angeles par la justice américaine qui l'accuse d'avoir été impliqué ces dernières années dans une série de cyberattaques téméraires, y compris celle qui avait touché Sony Pictures en 2014, ainsi que le cyberbraquage de la Banque centrale du Bangladesh en 2016. Il s'agit de Park Jin-hyuk, un programmeur informatique membre de l'équipe de piratage appelé Groupe Lazarus, lié au service de renseignement de Pyongyang. À noter que l'inculpation, qui n'a été annoncée qu'hier, date du 8 juin, soit 4 jours avant le sommet historique du 12 juin à Singapour entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Par ailleurs, les États américains se mobilisent face aux abus sexuels commis par des prêtres. L'État de New York et celui du New Jersey ont lancé jeudi des appels à témoins et ont annoncé des enquêtes avec convocation de diocèses sur ces abus et leur gestion par la hiérarchie catholique, et ce après un rapport accablant sur l'Église de Pennsylvanie. 3 semaines après la publication de ce rapport qui a détaillé des abus impliquant plus de 300 prêtres et plus de 1000 enfants, la procureure générale de l'État de New York, Barbara Underwood, a annoncé l'instauration d'un numéro vert et d'une page Internet pour recueillir les témoignages de victimes potentielles dans un communiqué. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La 3 minutes écho, Eric Manirakiza.
Le Nigeria a adopté un plan quinquennal de plus de 16 milliards de dollars pour le secteur de la santé. Ce plan vise à améliorer les infrastructures, les services et la couverture sanitaire de la population nigériane et permettrait de réduire de 31% la mortalité maternelle sur la période 2018-2022. Plus de 38% seront consacrés aux ressources humaines, 34% aux médicaments, aux produits et aux fournitures et 7% aux infrastructures. Ce plan couvrira 15 domaines prioritaires et devra reposer essentiellement sur 5 piliers stratégiques. La Commercial Bank of Ethiopia a accordé 500 millions de dollars au secteur manufacturier. Ce financement vise à améliorer la productivité d'un secteur qui représente l'un des piliers de l'économie éthiopienne. Addis Abeba veut devenir la plaque tournante industrielle du continent africain d'ici 2025. Le nouveau financement représente une hausse de 200 millions de dollars. Le gouvernement kényan veut attirer les compagnies aériennes low cost, Ryanair et EasyJet dans le pays pour stimuler le secteur touristique. Les plages, la faune et la flore attirent de plus en plus de touristes. Nairobi veut faciliter les arrivées d'étrangers provenant notamment du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Chine ou de l'Allemagne afin de soutenir un secteur en pleine expansion.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Christa, bonjour à tous.
La Ligue africaine des nations a débuté en Europe et le champion du monde accroché.
0-0 à Munich hier entre l'Allemagne et la France, championne du monde. La République tchèque battue 2-1 par l'Ukraine. Carton des Pays de Galles, 4-1 face à l'Irlande. La Bulgarie s'impose en Slovénie, 2-1. Victoire à domicile de la Norvège, 2-0 contre Chypre. Victoire à l'extérieur de la Géorgie, au Kazakhstan. L'Arménie domine le Liechtenstein, 2-1. Match nul 0-0 entre la Lettonie et Andorre. Enfin, la victoire à l'extérieur de la Macédoine, 2-0 face à Gibraltar.
Autre match hier soir, amicaux cette fois.
Le Portugal qui accueillait la Croatie pour un match sans enjeu avec de nombreux absents côté croate. Le Portugal jouait sans Cristiano Ronaldo, la star de l'équipe, restait concentré avec la Juventus Turin. Perisic avait ouvert le score pour les Croates et Pepe a égalisé pour les Portugais. Match nul, un but partout. Et puis pour la dernière sélection de Wesley Sneijder, les Pays-Bas ont été renversants à domicile. Une victoire, 2-1 face au Pérou. Memphis Depay qui a signé un doublé. Enfin, notons le dernier résultat, la victoire 2-0 de l'Autriche face à la Suède.
Et demain, c'est l'Italie qui sera de retour.
Oui, l'Italie retrouve la scène internationale contre la Pologne à Bologne avec le nouveau sélectionneur Roberto Mancini. Pour cette première journée de la Ligue des Nations, on retrouve aussi la Russie après sa belle Coupe du Monde à domicile. La Zbornaïa qui fait sa rentrée dans l'anonymat de Trabzon chez des Turcs invaincus depuis 5 matchs. La Serbie aussi mondialiste jouera de son côté en Lituanie alors que le Kosovo tentera de décrocher sa première victoire à l'extérieur en match officiel en Azerbaïdjan.
La FIFA donne son feu vert à Ibrahima Cissé pour jouer avec la Guinée.
Ah oui, l'ancien international espoir belge Ibrahima Cissé va poursuivre sa carrière internationale sous les couleurs de la Guinée. La FIFA a donné son feu vert au changement de nationalité du milieu de terrain de Fulham. Actuellement en stage à El Jadida avec le Sili National, le milieu de terrain de Fulham est âgé de 24 ans. Il a été formé au Standard de Liège. Ibrahima Cissé avait porté les couleurs belges dans toutes les catégories de jeunes, des moins de 17 ans au moins de 21 ans.
Geoffrey Kondogbia, lui, jouera avec la Centrafrique.
Convoqué par le sélectionneur Raoul Savoie pour le match du 9 septembre en Guinée, le milieu de terrain de Valence avait déclaré forfait le week-end dernier en raison d'une blessure à la cheville. Eh bien, cette déception n'est que de courte durée pour les fauves du Bazoubangui, puisque la FIFA a donné son feu vert à la demande de changement de nationalité sportive du joueur. Conséquence, Geoffrey Kondogbia sera bien présent dans la sélection centrafricaine au début du mois d'octobre pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2019, un renfort important pour les fauves en vue de la double confrontation face à la Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a été placé par le département d'État américain sur la liste des organisations terroristes. La principale alliance djihadiste du Sahel regroupe des entités comme Ansar Din du malien Iyad Aghali, Al-Mourabitoun de l'Algérien Mortar Belmortar, et l'Émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. À quoi servent ces sanctions américaines contre ces groupes djihadistes? Idriss Fall a joint Ahmedou Oud Abdallah, directeur du Centre d'études stratégiques sur la sécurité du Sahel-Sahara.
C'est une très bonne question et en anglais, on aurait dû dire « it is a long overdue question ». C'est une question qu'on doit poser depuis très longtemps parce que c'est très bon de mettre sur la liste noire des États-Unis et des grandes démocraties les gens qui font mal à leur pays, des terroristes, ceux qui détournent des fonds parce qu'ils ont besoin de prestige de visiter un grand pays, que ce soit les États-Unis en Europe ou qu'ils visitent même des pays comme l'Arabie Saoudite ou les chrétiens de l'islam. Mais mettre sur la liste terroristes des gens qui n'ont aucun compte en banque à l'étranger, qui n'ont aucune intention d'aller à l'étranger, comporte un risque énorme de discréditer ces listes noires. Et je l'ai constaté quand j'étais représentant spécial des Nations Unies en Somalie. Qu'on mette sur la liste un financier connu qui habite à l'étranger, c'est excellent. Mais qu'on mette sur la liste des gens qui n'ont même pas de passeport, ou qui au contraire peuvent avoir une dizaine de passeports de plusieurs pays, je ne vois pas quel est l'intérêt, sauf affaiblir l'effet dissuasif de ces mesures qui sont bonnes sur le principe.
Certains Mokhtar Belmokhtar ou Iyad Aghali, ils n'ont aucune intention de quitter les endroits où ils se cachent.
C'est la question qui se pose d'abord. Ils n'ont pas de compte à l'étranger en leur nom sous la forme classique. Ils n'ont aucune intention, s'ils sont encore de ce monde, s'agissant de Mokhtar Belmokhtar. Mais cette liste automatique est une menace qui n'a plus de dents. Il faut changer de fusil d'épaule, il faut trouver une nouvelle méthode dissuasive pour prévenir la violence. Même si l'idée est bonne, l'efficacité n'a plus de réalité.
Et d'autant qu'on sait que beaucoup de pays européens payent des rançons pour obtenir la libération de leurs otages.
Mais je trouve que les Américains et les Britanniques, on peut les comprendre sur ce plan. Ils ne payent pas de rançon. C'est une autre culture que la culture de certains pays méditerranéens qui ont cette tradition de trouver une façon de libérer leurs otages en payant directement ou indirectement les prix demandés, la rançon. Et on peut comprendre qu'on la fasse pour une vieille dame ou un vieux monsieur, mais si je reviens aux sanctions, il faut l'efficacité et il faut cesser de prendre les radicaux qui traversent le désert du Sahel comme des demeurés ou des idiots. Ils savent ce qu'ils font, ils savent réagir et est plus que nécessaire de trouver une réponse que nous pouvons tous trouver ensemble pour s'adapter à la menace.
C'était Ahmedou Oud Abdallah, directeur du Centre d'études stratégiques sur la sécurité du Sahel-Sahara.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Des enquêteurs de l'ONU sur le Burundi ont averti mercredi que de graves violations des droits de l'homme, dont des crimes contre l'humanité, s'y poursuivaient, dénonçant les appels récurrents à la haine du président Pierre Nkurunziza. Pour une réaction, Yakuba Ouédraogo a joint Martin Niabandi, ministre burundais des droits de l'homme.
C'est un rapport qui, dans le contenu, fait des allégations mensongères, des allégations inacceptables. Quand vous dites que le chef de l'État fait toujours appel à la haine, c'est toujours très étonnant. Et quand vous suivez les actes de moralisation sur l'unité de la réconciliation nationale, il s'avère important de connaître et de savoir que c'est une commission qui a été guidée par un esprit malveillant. Nous avons rejeté les conclusions et les recommandations de ce rapport. Mais nous n'avons pas été très étonnés puisque quand il a fallu mettre en place cette commission, ça a été fait par le force. Au niveau du gouvernement, on avait découvert très tôt que l'objectif était de terminer l'image de notre pays.
Est-ce que le gouvernement burundais a autorisé une commission de l'ONU à s'installer au Burundi pour enquêter sur des violations des droits de l'homme?
C'est ce que nous avons découvert. La première commission qui était venue, c'était ce que nous avons appelé l'EIMI. Enquête des Nations Unies au Burundi, ils ont produit un rapport, nous avons fait notre réaction. Et après, ils ont voulu mettre en place notre commission sous la pression de l'Union européenne. Nous avons rejeté cela, nous avons créé. D'abord, le rapport contenait des mensonges, qu'il fallait nous asseoir ensemble et trouver des solutions adéquates dans le cadre de promouvoir la paix, la réconciliation et la promotion et la défense des droits de l'homme. Et cela n'a pas été accepté.
Est-ce que des enquêteurs vous ont approché après la publication du rapport ou avant?
Quand l'ONU a produit son rapport, nous avons fait notre réaction. Les réactions du gouvernement sont disponibles. Même s'ils veulent, ils vont prendre. S'ils ne veulent pas, nous n'avons pas de force. Dès que nous disons, nous ne reconnaissons pas la légitimité de cette commission d'enquête.
Les enquêteurs disent avoir une liste confidentielle de personnalités impliquées dans ces exactions-là. Ne craignez-vous pas des poursuites?
Comment est-ce qu'on peut avoir peur des poursuites alors qu'on ne s'accuse de rien? Ça fait 3 ans qu'on parle de la fameuse liste. Et pourquoi on ne dévoile pas cette liste? C'est une façon de faire la pression sur le gouvernement, c'est une façon de faire peur. Mais au moment où nous vous parlons, le peuple burundais est résolu à défendre sa souveraineté, à défendre et protéger les droits de l'homme. Nous disons, nous restons très sereins, nous continuons nos activités quotidiennes. C'est depuis 2013 que nous sommes habitués à cela. Nous devons nous occuper des autres aspects du développement et ne pas continuer à perdre notre temps dans des histoires de commissions, d'investigations qui ne se terminent jamais.
Martin Niviabandi, ministre burundais des droits de l'homme, joint à Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les autorités marocaines ont annoncé hier l'arrestation de 2 passeurs subsahariens lors d'une tentative de traversée clandestine de 58 migrants. Ils voulaient rallier 2 jours plus tôt les côtes espagnoles à travers la Méditerranée. Irénée Herman Ungo.
Ces migrants issus de pays subsahariens se trouvaient à bord d'une embarcation pneumatique au large de la commune de Ras El Ma dans la province de Nador. En attendant de rallier les côtes espagnoles, leur destination de choix. Ils vivent ici dans des conditions exécrables et résistent à toute tentative d'expulsion ou de relocation par les autorités marocaines.
Cette semaine, nous avons eu trop de problèmes ici au Maroc. On dit qu'on doit quitter la ville de Tanger. On nous envoie dans les autres villes. Et dans les autres villes, on nous envoie, nous ne sommes pas gardés. On ne nous donne pas la maison, ni de quoi manger.
Vous voyez un peu là où nous on dort, là. Ils sont venus ce matin brûler tout. Les policiers là, eux nous envoient à Tisnit, eux nous envoient à Oujda, qu'ils nous envoient là-bas. Nous on ne sait pas ce qu'on va aller faire là-bas. Bon, ils disent qu'ils n'ont pas à Casa, Marrakech, Rabat, nous on va pas vivre là-bas. Nous on va aller vivre là-bas pour travailler quoi? Qui va prendre soin de nous? On n'a même pas d'abord de maison. Déjà une fois de plus, vous voyez là où nous dormons. C'est bizarre, on dort dehors en forêt.
Les autorités marocaines ont multiplié ces dernières semaines les rafles et déplacements forcés de centaines de migrants du nord vers le sud, officiellement pour lutter contre les réseaux mafieux, suscitant la colère des associations. Des passeurs ont été arrêtés lors de ces opérations pour avoir reçu des sommes d'argent afin d'organiser le voyage de migrants qui subissent toutes les humiliations humaines le long de la traversée, comme l'indique Fabienne d'origine ivoirienne.
Depuis nous sommes arrivés ici, On n'a pas la paix. On nous frappe. Regarde, il y a ma soeur, ils ont cassé son pied. Elle est couchée là-bas, elle ne peut même pas se lever. Aujourd'hui, un Marocain a cassé son pied. Tout ça, c'est quoi? Même nos téléphones, on vole. L'argent, on vole. Les vêtements, on vole. On brûle. On ne mange pas.
Les recherches se poursuivent pour identifier et appréhender les autres personnes impliquées dans ces actes criminels, selon la gendarmerie marocaine. Au total, 230 personnes, dont des Marocains et des Subsahariens, impliqués dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine, ont été arrêtés et présentés devant la justice depuis le début de l'année, selon le ministère de l'Intérieur. Plusieurs associations marocaines dénoncent ces opérations musclées de démantèlement de camps, d'arrestations arbitraires suivies d'expulsions collectives et de déplacements massifs, fustigeant le rôle de gendarmes de l'Union européenne que joue le Maroc dans cette lutte contre les migrants.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Washington est secoué ces jours-ci par une tribune fort critique du président Donald Trump, publiée mercredi par le New York Times. Selon ce grand quotidien américain, cette tribune a été écrite par un haut responsable de l'administration Trump qui décrit une situation chaotique à la Maison-Blanche. L'auteur anonyme affirme faire partie d'une résistance au sein de l'administration pour empêcher, dit-il, les pires penchants du président Trump. Abdourahmane Dia nous propose ce décryptage.
Alors que la polémique soulevée par le livre « Apparaître » du célèbre journaliste Bob Woodward sur la Maison-Blanche de Donald Trump vient à peine d'être lancée, cet éditorial fait l'effet d'une bombe dans la capitale américaine. Cet anonyme, présumé employé de l'administration, dit ceci. « Je travaille pour le président, mais j'ai décidé, tout comme des collègues partageant les mêmes idées, de contrecarrer une partie de son agenda et ses pires inclinaisons. » Ce présumé officiel peint un tableau sombre de la Maison-Blanche. « Nous pensons que c'est au pays que nous sommes d'abord redevables, et le président continue de se comporter d'une manière préjudiciable pour le pays. Le fond du problème, c'est l'absence de moralité du président. » Mais dans sa réaction, le président s'est montré plutôt combatif.
Quand vous me parlez d'une certaine source anonyme au sein de l'administration qui est certainement en train d'échouer et qui n'est probablement pas ici pour les bonnes raisons, et le New York Times est en train d'échouer.
Le président a plus tard tweeté, se demandant si cela n'était pas de la trahison, appelant aussi le New York Times à révéler l'auteur de l'éditorial anonyme pour des raisons de sécurité nationale. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a non seulement affirmé ne pas être l'auteur de l'article, il appelle ce dernier à démissionner s'il ne croit pas en l'agenda du président.
C'est triste de voir quelqu'un faire ça. Pour moi, si vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous demande, vous n'avez qu'un choix. C'est de partir. Et cette personne, d'après le New York Times, a non seulement décidé de rester, mais de saper le programme du président.
Au Congrès, démocrates et républicains sont divisés sur la question. Le sénateur Ted Cruz du Texas préfère toutefois se focaliser sur les bons points de l'administration.
Eh bien, je l'ai lu, je ne sais pas qui l'a écrit. Mais vous savez, en ce moment, je porte mon attention sur les audiences de confirmation de Kavanaugh. J'ai passé une bonne partie de la journée sur ces audiences. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça présentement.
Le démocrate Ed Markey appelle ses collègues républicains à suivre l'exemple de cet éditorialiste anonyme et dénoncer l'attitude du président Trump.
Cela démontre au moins qu'une personne à la Maison-Blanche a trouvé nécessaire de lancer l'alerte sur ce qui se passe derrière la scène. Nous espérons que les républicains au Sénat commenceront à faire la même chose pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on approuve les yeux fermés tout ce qui vient de la Maison-Blanche.
Le New York Times, que certains critiquent pour sa décision de publier cet éditorial anonyme, se défend à travers un communiqué, se déclarant très fier de sa décision qui a permis, selon le journal, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la Maison-Blanche sous Donald Trump.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la rentrée scolaire dans les zones affectées par l'épidémie d'Ebola en RDC.
Alors qu'un syndicat d'enseignants souhaitait un report de la rentrée des classes pour éviter la propagation de la maladie, la reprise est effective sur recommandation du ministère de la Santé.
Pour en parler, nous recevrons Palou Cook Ghislain, enseignant et syndicaliste. Il nous dira pourquoi son syndicat militait pour un report de la rentrée.
Nous écouterons un avis contraire avec le docteur Baté Ndjoloko du ministère de la Santé. Nous écouterons aussi les avis d'un responsable d'établissement, d'un parent et d'un élève.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show, je donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.